première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Alors, historiquement, le Bauhaus a été créé à Dessau. Avec la montée du nazisme, l'école de Dessau a été fermée. Elle est partie à Weimar. Elle a demandé à Mannheim de pouvoir s'y installer. Mannheim a refusé. Ils sont partis après à Berlin. L'école a été dissoute vers 1938.
Les 100 ans du Bauhaus. Les 100 ans du Bauhaus. Voyage en Allemagne, mars 2019. Avec en Belgique Anne Van Loo, Caroline Mirop, Sébastien Charlier, Iwan Strauwen.
Là où on est à Dammerstock, c'est-à-dire c'est un ensemble qui a été créé à Karlsruhe pour que les gens vivent à la fois chez eux mais ensemble. C'est aussi une idée qu'on retrouve dans la ville de Freiburg par exemple.
Voyage en Allemagne, mars 2019. Avec Dominique Marie van de Kerkhove, Peter Tjonk, Fanny Kowaleska, à Karlsruhe, dans le quartier d'Hammerstock.
Dernièrement, pour fêter les 100 ans de ce mouvement, on a vu à la télévision allemande une émission sur les femmes dans le mouvement du Bauhaus, parce qu'on n'en parle jamais. Et c'était intéressant de voir à quel point elles avaient été zappées, ces dames. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque, surtout pas en Allemagne de l'Ouest, que des femmes pouvaient aussi être artistes, tout en ayant une vie d'épouse, et pire, une vie de mère.
Et les 100 ans du Bauhaus. Avec la participation de Mario Botta.
Alors, mon nom, c'est Dominique Marie van de Kerkhove.
Et les voix de Pierre Bourgeois, 1898-1976, frère de Victor Bourgeois, interviewé par Jean-Pierre Van Tighem.
Selon un slogan qui a été rendu célèbre, le salut de l'architecture, c'est la dèche.
Les 100 ans du Bauhaus. Par Thierry Junico.
D'ailleurs, si les gens vont à Berlin pour voir la grande exposition qu'il y a sur le Bauhaus, il faudrait aussi aller voir la topographie de la terreur, parce que quand on est dans ce bâtiment qui a été construit sur l'ancien emplacement de la Gestapo, déjà ça fout un peu la trouille, il faut dire. C'est, moi je trouve ça très impressionnant. Et ça fait drôle parce que quand on a un peu d'imagination, on pense à tous les gens qui ont souffert, qui sont morts, qui ont été torturés, ça, moi je trouve ça affreux. Et on voit l'explication, la montée du nazisme, mais on voit qu'en 3 mois, voilà, c'était plié.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse, donc...
Regardez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Production ? Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Le Bauhaus n'aurait certainement pas vu le jour à Weimar en 1919 si Henri Van de Velde n'avait préparé le terrain sur place à partir de 1902 et s'il n'avait proposé pour prendre sa succession à la tête de sa propre école des métiers d'art la candidature de Walter Gropius, qui, comme on le sait, deviendra le premier directeur du Bauhaus après la guerre, en 1919. Et donc, Henri Van de Velde a, dès son engagement à Weimar, en 1902, mis sur pied un séminaire des métiers d'art. Elle comporte plusieurs ateliers de métiers d'art, et à cette particularité que, par manque de fonds, les ateliers, qui sont des ateliers de formation, seront aussi des ateliers de production. Et donc, les réalisations des élèves seront mises en vente pour compléter le budget de fonctionnement de l'école. Cette école se distingue assez rapidement de l'enseignement qui existait dans d'autres écoles et l'enseignement académique ou technique par le fait que l'enseignement est centré sur l'apprentissage en atelier et la confrontation avec des matières et les couleurs et pas l'apprentissage des styles, etc., comme c'est le cas dans les autres écoles. L'école va vivre correctement, je dirais, jusque dans les premières années de la guerre 14. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, l'administration grand-ducale de Weimar, qui est particulièrement réactionnaire, va, à partir de 1910-11, créer beaucoup de difficultés à Van de Velde, qui est un architecte étranger, qui a très peu à voir avec la mentalité assez fermée, je dirais, de cette administration. Van de Velde est connu pour son internationalisme, même son anarchisme, et donc ça colle très très peu avec le milieu de cette petite cour locale et provinciale, je dirais.
Anne van Loo.
Alors qu'il travaille à son célèbre théâtre qu'il va réaliser pour l'exposition du Werkbund à Cologne en 1914, début de l'année 1914, il est rappelé au mois de mai, je crois, par l'administration weimarienne qui veut le forcer à démissionner. Et van de Velde résiste quand même. Il dit « je ne vois pas pourquoi je démissionnerai » et il réalise une sorte de rapport de toute son activité à Weimar depuis 1902 jusqu'en 1914, et son activité a incontestablement eu un effet extrêmement bénéfique sur la relance de ces métiers d'art et sur, je dirais, la reconnaissance de Weimar au niveau de l'Allemagne, qui est n'est pas un pays unifié encore à l'époque. Et il va finalement être obligé de démissionner parce qu'il voit qu'il ne va plus pouvoir rien faire dans son école, les budgets sont coupés, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va remettre sa démission avant la déclaration de la guerre, en proposant notamment la candidature de Walter Gropius. Le Bauhaus n'aurait pas pu exister de cette manière si Van de Velde n'avait pas préparé le terrain. De 1902 à 1914, c'est quand même pas rien, pendant 12 ans.
Les 100 ans du Bauhaus.
Et pendant les premières années, ça va assez bien se passer, parce que le climat révolutionnaire est là, et donc on va admettre que cette école où il y a des artistes bizarres, où ils mangent des graines et des plantes, où les gens sont habillés avec des anciens uniformes, avec une allure complètement hétéroclite. Donc tout ça va être... Voilà, on est dans un climat, cette Allemagne meurt de faim, hein, je veux dire, à l'époque. D'ailleurs, le Bauhaus qui possède... quelques terrains de l'autre côté de la rivière à Weimar et qui voulait y créer une sorte de cité pour ses professeurs, comme il fera plus tard à Dessau. Il va cultiver ses potagers et ils vont vivre pratiquement en autarcie. Ils n'ont plus rien. De grands artistes du Bauhaus, Kandinsky et je ne sais plus si c'est Oscar Schlemmer, décident un jour d'aller prendre un café, mais ils se rendent compte que dans le café, qu'ils ne peuvent pas payer. Et donc, ils vont devoir ressortir. Donc, c'est vraiment la misère noire à l'époque, il faut se rendre compte. À partir de 1922, l'administration dit, écoutez, votre école, elle dépense beaucoup d'argent, hein, mais on ne voit pas quelle est une influence bénéfique sur la production des industries d'art locales, etc. Ça ne va pas du tout, quoi. Ça ne va pas du tout. Et donc, on ne sait d'ailleurs pas très bien ce que vous faites dans cette école. Et au départ, c'est vrai que les premières années sont des années un petit peu de rodage, on pourrait dire, où on met en place un enseignement comme ça n'a jamais existé nulle part, à savoir Johannes Itten est engagé là pour créer ce qu'on appelle le Vorkur, qui est un cours préparatoire sur base duquel on va tester un peu les étudiants et voir s'ils peuvent ou non continuer, dans quelle voie d'ailleurs ils pourraient continuer. Et donc, Eaton, il confronte aussi les étudiants avec de la matière, à savoir, ils disent, prenez une feuille de papier, et avec cette feuille de papier, essayez de franchir une distance de 20 cm ou de 15 cm. Et donc, oui, il faut alors plier le papier de telle manière que ce soit possible. Donc, il fait réfléchir sur les potentialités des différents matériaux. Kandinsky est là pour donner un cours de peinture murale et un cours surtout de théorie de la couleur. Et enfin, ce genre de matière n'est pas enseigné dans les autres écoles. Aujourd'hui, ça paraît assez normal, mais à l'époque, c'est une manière d'aborder l'enseignement artistique ou l'enseignement des métiers d'art totalement incongru, quoi. À partir de 1922, l'administration de Weimar dit « Oui, on ne sait d'ailleurs pas ce que vous fabriquez. On voudrait que vous fassiez une grande exposition des travaux d'élèves qui soit aussi l'occasion de prendre les contacts avec des industries locales, de fabriquer des choses avec eux, etc. » Et toute l'année 1922-1923 va être utilisée par Walter Gropius pour essayer de susciter ce grand élan dans l'école de manière à ce que la production et cette exposition soient magnifiques. Et cette exposition va d'ailleurs être une très très grande réussite. Elle va être commentée par presque le monde entier, par des tas de gens qui font évidemment partie du réseau plus ou moins grand du BOS, mais néanmoins elle va avoir un grand retentissement dans l'Allemagne aussi. Et donc Gropius espère à travers ça convaincre l'administration de Weimar du bien fondé de cette création. Ben, l'administration grand-ducale, elle n'en a rien à faire. Et elle va, dès 1924, supprimer de son budget tous les postes des enseignants, mettant Gropius devant le fait accompli, le BOS doit quitter Weimar. Donc en 24, ils prennent la décision de partir de Weimar et de s'installer à Dessau. À Dessau, où ils sont invités par le bourgmestre de la ville, qui est un homme progressiste et qui invite réellement le Bauhaus en décidant de construire des nouveaux locaux, en chargeant Gropius de réaliser de grandes cités pour les ouvriers des industries, qui ne sont pas des petites industries, là, c'est des industries de l'armement, de l'aviation, etc., etc. Et c'est en 1926 qu'il va inaugurer les nouveaux locaux du Bauhaus, dans une architecture radieuse, à l'image de leur idéal, de leurs espérances, et c'est à l'époque un bâtiment qui est considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est assez amusant que cette école est inaugurée en novembre 1926, je crois 3-4 jours seulement après que l'école de la Cambre soit créée à Bruxelles. Et c'est intéressant de faire ce parallèle, parce que l'école de la Cambre est finalement la seule école qui ait été créée au moment où le Bauhaus existait toujours, qui ait adopté ces méthodes d'enseignement et qui se soit revendiqué de cet enseignement. Et c'est souvent oublié. Donc, on parle du Bauhaus de Chicago qui a été créé seulement en 1937. On parle d'autres écoles, l'école d'Ulm et autres, qui se revendiquent de cette filiation avec le Bauhaus. Enfin, la plus manifeste est quand même celle de l'école de la Cambre, parce que même si Van de Velde et Gropius n'étaient pas restés en relation étroite, évidemment que Van de Velde était très bien au courant de l'évolution du Bauhaus.
Caroline Mirop.
Je ne sais pas s'il y a un rapport entre l'école de la Cambre et le centenaire du Bauhaus, mais il y a très certainement un rapport entre le Bauhaus et peut-être ce que j'appellerais le premier Bauhaus, celui qui a été fondé à Weimar en 1919, au sortir de la guerre, par Walter Gropius, et la Cambre. Et le lien qui est d'ailleurs un lien ambigu, qui est un lien qui se discute. Le lien, c'est la personnalité d'Henri Van de Velde. Henri Van de Velde, il était plein de choses, artiste, architecte aussi, beaucoup. Il avait une passion pour l'architecture, mais aussi une passion pour le théâtre. C'était aussi un théoricien et c'est quelqu'un qui très vite a été animé par la passion de la transmission, de la pédagogie en quelque sorte. Il a toujours voulu faire école et penser faire école.
Les Cent Ans du Bauhaus. En Allemagne, en Belgique.
C'était d'abord un séminaire, quelque chose qu'il faisait sur fond propre et où il donnait des conseils pour améliorer la qualité artistique des productions artisanales et d'art industriel du duché à l'époque de Weimar. Puis ça s'est transformé avec une petite subvention du duché de Weimar en une sorte d'école, mais qui est une école qui n'était pas financée à 100%. Par les autorités publiques qui étaient donc sans cesse confrontées à des problèmes d'argent et qui étaient donc au moins autant un lieu de production qu'un lieu d'enseignement. Je le dis parce que l'école de Lacambre n'était pas un lieu de production, c'était une école publique dès sa création au sens plein du terme, financée à 100% par le ministère de la Culture à l'époque. À l'époque, il y avait un ministère de la Culture belge, fédéral, et d'ailleurs on oublie souvent que l'école était à sa fondation une école bilingue, où la plupart des cours se donnaient en français, mais il y avait toute une série de cours qui se donnaient aussi en néerlandais. Les professeurs étaient, pour une grande majorité d'entre eux, bilingues et parlaient les deux langues. Il y avait des publications de l'école dans les deux langues. C'était vraiment une école nationale, d'où son nom, d'ailleurs, à l'époque. Institut National Supérieur des Arts Décoratifs. Et ce nom national est resté aujourd'hui dans le nom de l'école de Lacambre, qui est l'école nationale supérieure des arts visuels, alors que l'enseignement n'est plus une compétence nationale, fédérale, ce qui n'est un secret pour personne.
C'est une photographie qui a été prise en novembre 1930, ici au Palais des Beaux-Arts. On est dans le hall des sculptures qu'on appelle aujourd'hui le hall Horta.
Avec en Belgique Anne Van Loo, Caroline Mirop, Sébastien Charlier, Iwan Strauwen.
Et en 1930, peu de temps après la livraison du palais, l'ouverture du palais en 28-29, 1930, première exposition d'architecture qui se passe ici avec un grand congrès, le congrès des SIAM, congrès international d'architecture moderne, qui viennent à Bruxelles. Pourquoi ils viennent à Bruxelles? Parce que l'architecte moderniste le plus connu à ce moment-là en Belgique, c'était pas Henri Van de Velde, c'était Victor Bourgeois. Victor Bourgeois qui, ensemble avec Herpost, son collègue brugeois, était invité en 1928 à La Sarras. La Sarras, où le premier congrès a eu lieu. Un congrès qui a lieu en juin 1928 dans le canton du Vaud, dans ce château de Madame Le Mondreau, en Suisse. Autour de figures les plus importantes, notamment Le Corbusier, évidemment, qui devait être d'accord d'organiser cette réunion. Et d'autre part, un autre collègue suisse de lui, Hannes Meyer. Hannes Meyer, le deuxième directeur du Bauhaus après Walter Gropius. Marxiste, architecte communiste, engagé au Bauhaus avec ses étudiants dans ce qu'on appelait à ce moment-là la construction Bauen. Sur cette photo, sur les escaliers du hall Horta, on voit notamment Le Corbusier qui est présent, ici, à droite. Pas loin de lui, Madame de Mondreau, qui avait organisé dans son château le premier congrès SIAM, en 28. On voit Paul Hotelet, mais il y avait bien d'autres. Alors il y avait Walter Gropius, le premier directeur du Bauhaus, qui était là, présent en novembre 1930. Et il y avait Mies van der Rohe aussi, présent, le troisième directeur. Et il y avait Henri Van de Velde, aussi présent, au plein milieu de la photo. Mais Henri Van de Velde, c'est à peu près le seul architecte sur la photo qui se met en profil, comme s'il voulait dire « Mais moi, je suis d'une autre génération, je ne fais pas partie de cette famille cette grande famille internationale de modernistes. Moi, je suis encore d'une autre génération, un peu plus sérieux. On faisait encore de l'art nouveau, Jugendstil, voilà. On a l'impression qu'il essaie d'attirer l'attention de peut-être la seule figure de cette bande-là, de cette famille de modernistes, qu'il respectait réellement, c'était Mies van der Rohe.
Pierre Bourgeois, c'est d'abord à vous que je donnerai la parole pour essayer de donner un maximum de coordonnées de l'œuvre de Victor Bourgeois replacée dans des coordonnées plus vastes qui sont celles de son temps, de son époque, avec tous les problèmes que cela comportait.
On ne peut parler de l'architecture de Victor Bourgeois sans remonter à l'architecture de la fin du XIXe siècle. En ce moment-là, Horta, Henri Van de Velde, Ancard ont suscité un grand mouvement en faveur du renouveau des formes de l'architecture. Mais déjà, nous touchons au fond du problème. Pour Victor Horta, pour Henri Van de Velde, la ligne est une force. Les architectes travaillent au service de clients fortunés, au moyen de matériaux chers, afin de s'exprimer en toute leur personnalité. La nouvelle génération, celle qui a succédé à la guerre de 14-18, part de l'objectif opposé. Pour elle, selon un slogan qui a été rendu célèbre, le salut de l'architecture, c'est la dèche. Au lieu d'ambitionner un renouveau des formes par le luxe, par la rareté, par l'originalité, les architectes prétendent innover avec humilité au service du peuple, au service de la population en général. Et c'est la grande aventure des cités-jardins à laquelle ont collaboré des gens comme Van der Swalm et comme Eckrich.
Bourgeois fait partie des tout premiers professeurs dont s'est entouré Van de Velde. Van de Velde s'est entouré de la fine fleur de l'avant-garde belge pour créer son école à Bruxelles. Mais cette fine fleur de l'avant-garde belge ne partageait pas forcément toutes les théories qui étaient celles de Van de Velde et que Van de Velde s'était forgées tout au long de sa carrière. Van de Velde était presque en fin de carrière. On oublie souvent quand il devient directeur de l'école, il a 63 ans, ce qui serait aujourd'hui à peu près l'âge de la retraite. Certains professeurs qu'il engage ont son âge ou un peu moins, mais d'autres sont beaucoup plus jeunes, appartiennent à une autre génération. Et je pense que Bourgeois fait partie de ceux qui appartenaient à une autre génération et qui prendront une orientation architecturale assez différente de celle qui a été celle de Van de Velde.
Au lieu d'ambitionner un renouveau des formes par le luxe, par la rareté, par l'originalité, les architectes prétendent innover avec humilité, au service du peuple, au service de la population en général. Et c'est la grande aventure des cités-jardins à laquelle ont collaboré des gens comme Van der Swalm et comme Eckrich.
Pour autant, dès la création de l'école, et sans doute sous l'influence de gens comme Bourgeois, mais pas seulement, l'enseignement de l'architecture à la Cambre, qui est inscrit à la Cambre dès le début, ce qui n'était pas le cas du Bauhaus, l'enseignement de l'architecture est accompagné, on va dire, de manière obligatoire d'un enseignement de l'urbanisme et d'un enseignement de l'art des jardins, qui est quelque chose d'ailleurs qui s'est perdu ensuite et qui a été récemment recréé à partir de la faculté de l'architecture de l'ULB. Ce qui veut dire que dès 1927, dans les ateliers d'architecture de l'école de la Cambre, la question de l'architecture n'était plus celle de la maison, mais était celle, sinon de la rue, je dirais de la ville. Donc, des bâtiments publics, des logements, de l'espace public et de l'organisation de la ville. On change d'échelle.
Alors, Henri Van de Velde avait créé depuis 1927-28 l'école LISAT, hein, l'Institut supérieur des arts décoratifs La Cambre, dans l'abbaye de La Cambre, pour lequel il avait engagé le jeune Victor Bourgeois comme un des profs. Dans les mêmes années, juin 1928, Victor Bourgeois est appelé pour participer au congrès fondateur de la SARAS et il prévoit, les jeunes architectes qui se trouvent tous ensemble là-bas, de créer un comité d'honneur et ils vont inviter Henri Van de Velde dans le comité d'honneur. Mais Henri Van de Velde ne va pas accepter. Alors Henri Van de Velde, s'il se met ici en profil, ça traduit un peu une attitude un peu, sceptique qu'il avait par rapport à ces jeunes architectes, par rapport à Le Corbusier, par rapport à Gropius, par rapport à tout cela, qu'il considérait un peu comme trop à la mode, voilà. Et on a appelé par la suite La Cambre le Bauhaus belge, hein. Mais en réalité, je pense que Henri Van de Velde pensait que le projet d'origine, ce n'était pas le Bauhaus, c'était son Kunstgewerbeschule, qu'il avait créé à Weimar, hein, et que le vrai projet était son projet. Et il fallait appeler le Bauhaus, le Kunstgewerbeschule, ou même la Cambre allemande, hein, c'est la Cambre allemande.
Pierre Bourgeois, 1898-1976.
Oui. Nous touchons vraiment à la spécificité de l'architecture d'après 1918. Pour Victor Bourgeois, pour Hegrix, pour tous leurs compagnons, l'unité n'est plus la maison, l'unité c'est la rue. C'est-à-dire la coalition de petites maisons insignifiantes pour former une unité impressionnante. Et je crois que les jeunes architectes qui passaient dans l'enseignement de Victor Bourgeois se rendaient compte immédiatement de cette volonté de servir.
Mais rappelez-moi votre nom.
Kowalewska.
Et votre prénom ?
Fanny, de Rennes, plus précisément de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne.
Le plan de Gropius pour l'ensemble du terrain, c'était en fait des blocs parallèles découpés par des routes transversales. Et donc ce bâtiment-ci, c'était au coin de l'ensemble. ça avait une position très importante. Et d'ailleurs, le premier bloc longitudinal qui croise le bâtiment du coin a le nom d'Hammerstock sur son front pour annoncer tout le quartier qui a été construit en 1929. C'était à la demande du bourgmestre de Karlsruhe qui voulait prendre soin des dépourvus, des laissés pour compte dans sa ville. C'est vraiment un exemple type de cette époque, de l'architecture progressiste de cette époque. Très simple, très pur, sans fioritures, sans décoration aussi. Je me demande souvent si les gens à l'époque aimaient vraiment ce style, parce que les Allemands ont une tendance à un goût un peu baroque. Et voilà, là, il n'y en a pas, c'est vraiment très sec.
Est-ce là un des élèves de Walter Gropius, donc l'école du Bauhaus? Donc ça fait partie d'une cité qui s'appelle Darmstadt, qui a été construite entre 28 et 29. Et à cette époque-là, l'idée, c'était de faire quelque chose d'exemplaire dans l'habitat social et de montrer ce que l'architecture, entre guillemets, moderne pouvait apporter pour les petits gens, les travailleurs. La Laverie, qui est maintenant le bureau d'architecture, c'est un des gros bâtiments de cette cité, donc où tout le monde venait laver son linge. Et d'où la forme aussi de ce bâtiment très ouvert, sans mur, et avec cette image très particulière en haut, avec des ouvrants basculants qui permettaient de faire sécher le linge à l'étage.
Voyage en Allemagne, mars 2019, avec Dominique-Marie van de Kerckhove, Peter Tjonk.
On n'était pas habitué à ce type de finesse, comme à l'époque quand Loos faisait ses bâtiments à Vienne aussi. On ne voyait pas les qualités que ça représentait. On pensait, tiens, mais ça manque de décoration, ça manque de beauté, parce que la décoration, c'est ce qui faisait la beauté des bâtiments. Et donc ici, il y a un manque absolu de décoration. C'est ce qu'il nous faut pour vivre, c'est l'essentiel, c'est existence minimum en quelque sorte. Mais bon, si on voit alors la terrasse, on voit que c'est un endroit pour jouir du beau temps, de la vue, de tout ça. Des éléments très élémentaires de la vie quotidienne.
Alors quand ça a été construite, cette cité, c'était complètement la campagne. Et l'idée, c'était de faire un quartier qui soit salubre pour des gens qui ne pouvaient pas vraiment se loger. Et entre-temps, c'est devenu un quartier assez urbain, quoique il y a beaucoup d'habitants ne viennent pas forcément par ici, puisque c'est au sud de la Bretelle. Donc finalement, même si c'est très proche du centre-ville, c'est quand même un quartier protégé qui reste très vert. C'est plutôt les familles qui viennent ici que les étudiants. Voilà. Le gros problème de cette cité, c'est qu'il y a eu la guerre. Donc ce qui a été commencé à être construit n'a pas été fini. Tout n'a pas été fini. Ensuite, il y a eu les bunkers. Et ensuite, il y a eu les nazis qui rejetaient complètement cette architecture. Et donc, ils ont voulu continuer cette cité, mais dans le style architecture traditionnelle allemande. Ce qu'on peut voir en partie de l'autre côté de la rue, là, et si on va par là, vers l'ouest. Donc, style petite maison, toit de pente, et voilà.
On pense toujours que le Bauhaus, c'est tout blanc. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, à l'intérieur du restaurant ici au rez-de-chaussée, donc là où il y avait l'épicerie, il y a maintenant un très bon restaurant. On voit qu'il y a tout plein de couleurs qui ont été appliquées. Donc il y a le brun foncé, le vert pâle. Effectivement, Gropius, qui était quand même l'architecte en chef de l'ensemble, donc ce bâtiment-ci a été dessiné par Otto Hessler. L'architecte en chef de l'ensemble des bâtiments, c'était Walter Gropius. Il adorait d'appliquer des couleurs pour rehausser les qualités spatiales d'une pièce. Il appliquait les couleurs un peu partout.
Quand ça a été construit dans les années 30, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose de sain, avec avoir toujours des fenêtres traversant est-ouest pour la circulation de l'air, avoir beaucoup d'espace extérieur où les gens passent leur jardin. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent encore très fortement, qui fait aussi la qualité de ce quartier. Il y a, beaucoup d'aires de jeu avec beaucoup d'enfants qui jouent en été dehors avec tous les enfants dans le fleuve. On le ressent beaucoup et du coup, ce contraste maison traditionnelle, habitat moderne, entre guillemets, est un peu atténué par ce vert qui lie un peu les choses, je pense.
Vous-même, vous vivez ici dans la cité ?
Oui, enfin, je vis pas exactement dans Damastock, mais juste de l'autre côté, qui est aussi un bâtiment assez particulier, puisque c'est une réplique de la cité radieuse de Le Corbusier, qui se fait aussi très bien remarquer à Karlsruhe. Et même s'il n'appartient pas au quartier, c'est dans le courant de pensée qu'il a été construit. Et il a aussi ce caractère de avoir beaucoup de lumière et des vues sur la forêt noire.
On ne peut pas vraiment dire, je pense, que les Bauhaus, c'était des socialistes, c'est pas ça. Ils avaient quand même une idée très précise d'une société meilleure que celle qui existait à ce moment-là, parce que c'était la République de Weimar était en plein désarroi en 1929. C'était la pauvreté absolue partout, il y avait la Grande Dépression, et quand même à ce même moment on fait quelque chose qui parle d'une certaine utopie, d'une vie décente. C'est quand même important, je pense, à comprendre ce que ça signifiait pour les gens. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est beau, qui est bien proportionné, non, il s'agit là d'une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Les 100 ans du Bauhaus, avec la participation de Mario Botta.
Ma génération, ce n'est pas un problème d'adhésion idéologique. On ne peut pas oublier que la modernité elle est passée à travers cette révolution de l'organisation de l'espace de vie de l'homme. L'architecture, c'est l'espace de vie de l'homme. Le Bauhaus, avec tous les avant-gardes artistiques aussi, qui ont collaboré, Gropius, Schwitter, tout un monde de pensée artistique qui on a collaboré, qui on a consolidé et qui on a vu aussi la faillite. Du moment qu'on avait les instruments, il n'y avait plus la demande ou autre, il avait décliné une interprétation tout à fait seulement économique du bien-être. Mais en soi-même, le cycle solaire, il rythmait l'espace de vie de l'homme dans le Bauhaus.
On oublie trop souvent que l'enjeu est plus large que simplement l'esthétique architecturale, que ce n'est pas seulement ça, c'est de repenser la vie dès le début. L'idée même du design du Bauhaus, c'est qu'on n'applique pas les idées reçues, mais qu'on recommence à chaque fois à repenser le problème et de trouver une solution, non pas originale pour être originale, mais...
Vous avez amené un ordinateur, Sébastien Charlier ?
Oui, j'ai pris un ordinateur, parce que j'ai besoin de quelques notes. Il est indiqué « Une heure avec Monsieur Walter Gropius ». L'Équerre, créé en 1928, fondé par des étudiants en architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, ils reprennent ici un article de Joseph Mouchen, qui a rencontré Walter Gropius en 1931.
Étudiant liégeois ?
Pour rappel, Yvon Fallis, qui est le fils du directeur de l'Académie, Edgar Klutz, Émile Parent, et un autre gars, Jean Mouchen, qui est le frère de Joseph Mouchen, et Jean Mouchen qui sera notamment architecte en chef de la ville de Liège et qui va inaugurer toute une série de grands travaux d'infrastructures publiques. Lorsque Joseph Mouchen rencontre Gropius à Berlin, Gropius va lui montrer toute une série de bâtiments, des avant-projets, des esquisses, et notamment les plans de l'usine Fagus et les plans du bâtiment de l'école du Bauhaus à Dessau. Et ce bâtiment va profondément influencer Joseph Mouchen, notamment dans le travail qu'il va réaliser sur l'Institut du génie civil au Val-Benoît.
Le Bauhaus était certainement une école qui était connue des artistes dits un peu d'avant-garde, Mais ce n'est pas une école qui avait une réputation universelle.
L'impact que va avoir le Bauhaus sur ses architectes liégeois, c'est d'abord une vision transversale de l'architecture. Vous savez que le Bauhaus développe les arts appliqués, on fait dialoguer les arts. Lesquers va reprendre cet idéal, finalement, en s'associant à toute une série d'artistes dans l'édition de leur revue, des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, mais aussi des poètes, une grande figure ici à Liège dans la poésie, dans le rapport de la poésie avec l'avant-garde, c'est Georges Lins. Et puis, en matière de réalisation concrète, de bâtiments réalisés, bien, ce sont toute une série de bâtiments réalisés par Yvon Fallis et ses copains de l'Équerre, et notamment un bâtiment emblématique qui synthétise véritablement les grands concepts de l'architecture moderne, et en particulier ceux de Le Corbusier, qui est le bâtiment de la Reine Astrid, qui reprend les 5 grands points de l'architecture moderne de Le Corbusier.
Il y a tout le quartier que vous dites de Stuttgart, c'est le Weissenhof. Le Corbusier, c'était le chef, le maître de référence, mais il y avait beaucoup d'autres artistes, Bruno Taut et les autres. On avait fait comme une sorte de manifeste sur la colline de Stuttgart, mais ils sont restés une élite. Après la vie et surtout l'économie. Mais imaginez-vous aujourd'hui que nous, on est en train de critiquer les propriétaires foncières qui ont fait les spéculations et qui ont donné une interprétation dégradable au principe. Mais aujourd'hui, nous, on ne connaît même plus le promoteur. Il y a des sociétés, des fonds d'investissement. Nous, on travaille pour des fantasmes.
Ivan Strovan, j'ai pu interviewer Mario Botta, qui dit « Nous sommes héritiers du Bauhaus ».
Oui, des figures qu'on prend au sérieux sont héritiers des idées du Bauhaus, oui. Pas seulement Mario Botta, mais en gros tout le monde.
Ce sont des gens qui s'appellent le fonds d'investissement qui viennent des pays arabes ou de l'Amérique latine. Ils construisent morceaux de nos villes. Alors vous comprenez que là, les contradictions se font encore plus fortes.
C'est un bâtiment qui est réalisé en 1938 pour l'exposition internationale de Liège de 1939. Alors pour la petite histoire, ce qui mérite quand même d'être souligné, c'est que le directeur de l'architecture, la personne qui va un peu superviser l'ensemble des bâtiments construits sur le site de Coromeuse dans le cadre de l'exposition, c'est Yvon Fallis, directeur de la revue L'Équerre, directeur du bureau d'architecture de l'exposition, et à l'époque il n'a que 28 ans. Donc c'est quelqu'un qui monte très vite, avec l'appui notamment de Georges Truffaut, l'échevin des travaux publics de la ville de Liège. La patinoire, enfin ce que les Liégeois appellent toujours la patinoire, qui était en fait le pavillon de la ville de Liège, situé à Coromeuse, réalisé par Jean Moutchen, et puis des grands bâtiments emblématiques, monumentaux, des repères urbains, qui est notamment par exemple l'école lycée de Wa, et qui synthétise lui aussi une pensée de la transversalité de l'architecture à travers le rapport avec les arts plastiques. Puisque je pense que dans le lycée de Wa, on a combien, une trentaine d'artistes qui vont collaborer. Toute une série d'œuvres d'art de l'avant-garde dans la revue L'Équerre. Et puis, ça va conduire, évidemment, dans le cas du lycée d'Oie, à la concrétisation de ces liens unissant les artistes aux architectes. Alors, je ne vais pas dire les artistes de l'avant-garde, puisque dans le cas du lycée d'Oie, Jean Moutchen va devoir, alors est-ce qu'il va devoir ou est-ce qu'il va le faire librement, l'histoire ne le dit pas, en tout cas je n'ai pas les sources pour pouvoir le préciser, mais on a aussi dans le cas du lycée d'Oie des artistes plutôt classiques, on n'a pas que des avant-gardes, mais quand même Fernand Steven réalise 2 grandes toiles dans des classes, des toiles futuristes pour décorer la salle de chimie et la salle de physique par exemple.
Ça a eu une influence profonde sur des générations entières et ça a vraiment changé le cours de l'histoire. Et à ça, la critique postmoderne, postmoderniste des années 80 n'a en réalité pas changé grand-chose. On est toujours si on le veuille ou pas, on fait toujours partie de ce rêve à la fois d'abstraction et d'industrialisation et de modernisation.
Tout ça, c'est pas fait, tout le monde n'était pas d'accord, hein, comme en politique, où on a eu aussi une opposition, et on sent aussi que dans le monde culturel, ici à Liège, et partout en Belgique, hein, je prends un cas liégeois parce qu'il m'intéresse, le recours au modernisme, le recours à ces lignes pures, ne va pas plaire, parce que, rappelez-vous, nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et certaines revues, je pense notamment à la revue Marx et Pierre, revue assez conservatrice, va voir dans cette ligne moderne l'Allemagne et va, par conviction patriotique, rejeter les projets déposés par Georges Truffaut et par le groupe Lecker.
Et juste une dernière question. Vous dites, on a plusieurs vies aujourd'hui. Nous vivons plusieurs vies.
Oui, on a d'un certain sens le monde contemporain, la globalisation, nous a donné une richesse incroyable. Parce que nous, on est là à parler aujourd'hui des problèmes qui nous tiennent à cœur. Et hier, moi, j'étais dans un autre continent. Et demain, je vais rentrer tout près à l'Italie. Donc, il y a un potentiel dans la globalisation extraordinaire.
J'ai beaucoup parlé de l'expo de 39, l'exposition internationale de 39, à travers ces bâtiments. Mais il y avait aussi, au niveau théorique, l'aboutissement de la grande œuvre de la revue Lecker, qui est le rapprochement, la filiation intime avec les congrès internationaux d'architecture moderne. En 1935, Lecker prend la place du secrétariat de la section belge des SIAM. Et en 1939, les Liégeois avaient prévu, c'était dans le calendrier de l'exposition, avaient prévu le 6e SIAM ici à Liège. Un SIAM qui ne se tiendra pas puisque en septembre, eh bien, les Belges sont mobilisés pour la Seconde Guerre mondiale. L'exposition ferme prématurément. La guerre passe avec quand même une position qui sera un peu délicate puisque l'un des membres de l'Ecker va trouver dans l'occupation nazie un puissant relais et il prendra la tête de l'échevinat du ce qu'on appelait le Grosse Lüttich, l'administration mise en place par les Allemands, une administration rexiste. La guerre passe donc, Yvon Falise est condamné pour collaboration, je pense qu'il fait 8 ans de prison, et la revue Lecker disparaît. Par contre, le groupe Lecker, décapité, il a perdu Yvon Falise, lui se maintient et va continuer ce travail d'infrastructure publique avec les socialistes à travers des plans d'aménagement, de grands parcs de logements, principalement du côté de Serein, Jemeppe, etc. Tout ça se terminera en 1982. Alors, c'est assez comique, on retrouve cette filiation avec le monde politique, puisque 1982, c'est la faillite de l'Ecker. Et c'est aussi la faillite de la place Saint-Lambert, le grand trou de la place Saint-Lambert qui va se maintenir jusque l'intervention de Strebel.
Il faut faire attention que cet potentiel, il ne va pas détruire des vraies valeurs qui étaient ou qui pouvaient devenir des droits de l'habitat. Le droit à un cycle solaire, le droit à connaître les saisons, un droit à connaître les heures de la journée. C'est-à-dire, ils sont tous des valeurs liées à l'espace de vie de l'homme qu'on est en train maintenant de confondre. Pas seulement ils changent les saisons, mais vous allez à Las Vegas et il vous dit que morceau. Il reprend la ville de Venise, et c'est comme si vous êtes à Venise, vous comprenez. Alors nous, on doit faire attention à choisir le bon du mauvais. Chercher de maintenir ce qui est authentique, ce qui est lié à une histoire, à un passé qui nous a dans lequel nous on se reconnaît. C'est pour ça que j'ai dit avant que le territoire sur lequel travaille l'architecte aujourd'hui, c'est surtout un territoire de mémoire.
C'est intéressant de se rendre compte que c'est dans les années 50, alors qu'on ne parle plus vraiment du Bauhaus, que les États-Unis vont, à travers ces enseignants, s'intéresser au Bauhaus. Et puis, étant donné qu'ils s'intéressent au Bauhaus et que petit à petit, ils vont quand même avoir une emprise extrêmement importante sur la pensée artistique et surtout sur le marché de l'art, c'est à travers cela que le Bauhaus va revenir en Europe. Il va prendre l'aspect d'un mythe. Et c'est donc cet aspect mythique va être exalté avant que le Bauhaus ait fait l'objet d'études. Et il ne fait l'objet d'études pas depuis longtemps.
Les 100 ans du Bauhaus, en Allemagne, en Belgique. Voyage en Allemagne, mars 2019, avec Dominique-Marie van de Kerkhove, Peter Tjonk, Fanny Kowaleska, à Karlsruhe, dans le quartier d'Hammerstock. En Belgique, Anne Van Loo, Caroline Mirop, Sébastien Charlier, Iwan Stroven. Et les 100 ans du Bauhaus, avec la participation de Mario Botta, et les voix de Pierre Bourgeois, 1898-1976, frère de Victor Bourgeois, interviewé par Jean-Pierre Van Tighem. Les 100 ans du Bauhaus, par Thierry Junicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.